force de réassurance. Alors moi, je pense que c'est une question vraiment qui n'est pas du tout à jour. Étant ukrainienne, suivant les infos de très près de l'intérieur de l'Ukraine, quel cessez-le-feu et quel... on n'en est pas du tout là, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque après-midi à 16h pour arpenter ensemble les chemins escarpés du gai savoir, une balade instructive et rieuse même quand vient la mi-janvier, qui est le pire moment de l'année. Les journées sont aussi courtes que Quentin, lui. Dans la rue, les gens tirent une gueule de 3 km, on dirait Manon Mariani, tous les autres jours de l'année. C'est aussi la période culpabilisante du Dry January, que cela dit, on n'a plus le droit de faire depuis que Pierre Courade a déclaré que c'était inutile. Mi-janvier, les plus radins d'entre nous finissent aussi de revendre leurs cadeaux de Noël sur le Bon Coin pour purger leurs découverts, à l'instar de cette transaction hier soir entre Marianoche 75 et Bernard 89, un très beau Godemiché, passage du désir, très peu utilisé à, si j'ose dire, changer de main, puisque ça Bernard n'a pas négocié le prix, il a juste demandé, je cite, à ce que l'objet ne soit pas lavé avant
mais
expédition.
Hélas,
certains produits, même soldés, même bradés, ne trouvent toujours pas preneur. Oui, c'est une photo qu'a reçue Quentin ce week-end et qu'il a, à juste titre, dévastée. Rouvrant une plaie qu'il pensait depuis longtemps cicatrisée, celle d'une carrière avortée de rockstar. Cette photo poignante, prise par une habitante d'Alençon, c'est tout simplement le rayon « Tout doit disparaître » d'une célèbre librairie de la ville natale de Quentin, où l'on aperçoit, misérablement coincé entre un best-of de Bernard Lavilliers et une vieille biographie de Nelson Montfort, la pochette du vinyle d'Intérieur Nuit, le groupe qui devait propulser Quentin au firmament du rock français et qui, même à moins 70%, semble ne pas avoir encore trouvé preneur. Alors, si vous voulez faire une bonne action en ce début janvier, redessiner un sourire sur le visage de Quentin, foncez à la librairie Le Passage et achetez le disque d'Intérieur Nuit. Vous ferez alors partie des 53 mélomanes qui ont la chance de le posséder, sauf que vous, vous l'aurez eu à moins 70%. Quentin, qu'est-ce qui fait que Paris parle à Paris et le P s'appelle En Attendant, qu'est-ce qui fait ça un album indispensable?
Je sais pas, on l'avait appelé En Attendant, en attendant peut-être le succès qu'on attend toujours.
Combien d'années après?
Il est sorti en 2017.
2017, presque. On fêtera bientôt les 10 ans.
Non, pas autoproduit. Ah, okay. Nous avions un label à l'époque.
Très bien.
Effectivement, Manon, effectivement.
Un label local?
Non, le label qui avait produit Cocoon.
Vous avez entendu ce mépris?
La réponse
non. Le label de Cocoon.
Il n'y avait pas de mépris.
Jamais de votre part. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Alors oui, la mi-janvier est une période assez sinistre, mais haut les cœurs, pour vous redonner le sourire, Zoom Zoom a choisi d'aborder aujourd'hui un sujet rieur, la guerre en Ukraine. Et plus rieur encore, la perspective annoncée par Emmanuel Macron que la France envoie bientôt des troupes en Ukraine. On parle de force de réassurance, mais qu'est-ce que ça signifie exactement, force de réassurance? Général Nicolas Richoux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Ancien commandant de la 7e brigade blindée, ancien attaché de défense à l'ambassade de France à Berlin, vous êtes aujourd'hui consultant défense sur LCI, où vous analyses font souvent en mouche. Vous allez nous expliquer ce qu'on entend par force de réassurance, un terme que nous avons découvert ces jours-ci au sujet de l'engagement européen en Ukraine. Pourquoi devrons-nous envoyer des hommes sur le territoire ukrainien alors que Moscou menace de les prendre pour cible? Pourquoi tous les traités, notamment les accords de Minsk, n'ont pas permis d'assurer la paix et la sécurité jusqu'à présent? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter ceux dont vous venez déjà d'avoir un petit aperçu assez flatteur, deux planqués qui ont échappé au service militaire. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
à tous.
On s'est pas planqué.
On est juste nés en 80.
Voilà.
On était sous le mandat d'un visionnaire. Le président Chirac.
Chirac, rappelons-le.
Manon, c'est vos mots, pas les miens.
Si on était à l'armée, Cyril vous aurait déjà envoyé devant la cour martiale pour insulte envers votre supérieur hiérarchique. Car oui, dire à son supérieur hiérarchique qu'il ressemble de plus en plus à Maurice, le père de Belle dans La Belle et la Bête, c'est pour un belâtre comme Cyril, qui a une réputation quand même à maintenir, d'autant plus facile à maintenir qu'on est en radio, une insulte.
C'est pas moi, c'est ChatGPT, je me serais jamais permise.
C'est ChatGPT qui vous a répondu. Ça.
J'ai envoyé une photo de Cyril à ChatGPT. Il a comparé à Maurice dans La Belle et la Bête.
Vous avez ri si fort que.
Oui, bah oui, je m'attendais pas à ça.
C'est rare que Manon rit fort.
Oui, moi.
C'est vrai, ouais.
Je suis plutôt discrète.
C'est discret. Dans votre pièce jointe cet après-midi, Manon.
Je vais vous parler d'une force militaire dont le nom revient à chaque conflit, mais que beaucoup ne connaissent pas réellement. Elle n'appartient à aucun pays, mais à l'ONU. Mais en quoi est-elle réellement utile?
Face à vous, mon général, sa carrière aurait pu s'achever en apothéose au Stade de France, devant 60 000 personnes extatiques qui, après la première partie, déjà pas mal, Cole complet seraient devenus hystériques en voyant arriver sur scène le groupe dont ils ont tous le nom tatoué sur le torse, Intérieur Nuit. Intérieur Nuit pour Manon, chez qui ça aurait pas fait. Hélas, sa carrière a fini très loin du Stade de France, sur une étagère poussiéreuse du rayon solde de la librairie Le Passage à Alençon.
On embrasse.
On embrasse, évidemment. Quentin, comme le public n'est pas venu à vous, c'est vous qui allez désormais au public. Vous sillonnez les rues pour faire réagir les gens à notre thème du jour.
Et autant vous dire que force de réassurance, personne ne l'avait. Alors, même si ça fait plusieurs jours que cette notion s'invite sur les plateaux télé, eh bien la rue a aussi son mot à dire. On a parlé cessez-le-feu, on parle solidarité et Ukraine avant 16h30.
La guerre, c'est moche. Sauf dans les cas, trop rares hélas, de ces guerres qui n'ont fait aucun mort. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte de ces conflits aux noms parfois rigolos qui n'ont pas fait de victimes. Juste avant 17h, elle, ses chroniques font toujours au moins une victime, l'accent marseillais. Nous retrouverons cette semaine Marion Mésadorian. Après 17h, restez avec nous, évidemment, on fêtera les 200 ans du journal préféré de Cyril, Le Figaro. Quentin, imitation de Jean d'Ormesson.
Attendez, il faut que je m'y remette. Écoutez, Mathieu Noël, Le Figaro, oui, qui était d'ailleurs mon journal préféré.
La fin était mieux que le début.
C'était moins pire.
C'était
très mal parti.
Au début, j'ai cru que c'était Nelson Montfort. Mais
il a entendu tout à l'heure Nelson Montfort, il ne savait plus où il était.
Nelson, c'est pas ça.
Oui,
tout
bon.
D'abord.
Allez-y.
Non.
J'ai écouté Mathieu Noël. Effectivement, Le Figaro. Voilà.
Bon.
C'est un moment de solitude.
Je crois que la cour martiale s'impose quand même, Quentin, pour lui. D'abord, Général Richou, zoomons sur cette notion de force de réassurance dont on entend parler dans les médias depuis quelques temps. Vladimir Poutine a averti la semaine dernière que toute présence occidentale en Ukraine serait une cible légitime. Est-ce que cette force de réassurance voulue par les alliés de Kiev n'est pas un projet déjà mort-né ?
Alors ça, c'est l'avenir qui le dira, mais une force de réassurance, il faut déjà définir ce que c'est. Bon, une force de réassurance, il s'agit d'établir des garanties de sécurité qui permettront à l'Ukraine d'être viable et de ne plus être attaquée par son puissant voisin dans les années à venir.
Bon. Et concrètement, c'est des hommes sur le terrain.
Concrètement, ce sont des hommes sur le terrain, mais il n'y a pas que des hommes sur le terrain. C'est quel mandat ? C'est-à-dire que quand les hommes, ils obéissent aux ordres. Bien. On a vu, par exemple, lorsqu'on était en Yougoslavie, en 1995, on obéissait au département des opérations du maintien de la paix de l'ONU, et puis on a vu des soldats enchaînés sur le pont de Verbania, et puis il a fallu que le président Chirac réagisse en envoyant l'artillerie, lourde, pour tirer sur les Serbes, pour arranger la situation. Donc, ça, c'est des choses dont on ne veut plus, ça veut dire que si on envoie une force, il faut savoir quelle va être sa mission. Si c'est simplement pour observer à la jumelle comme la finule au Liban, et puis compter les coups, ça ne sert à rien. Une force de réassurance, ça doit être armée lourdement et être capable d'être le juge de paix s'il se passe quelque chose.
Donc en gros, pour démarrer l'émission, vous dites que le mot force de réassurance a été lancé comme ça, mais rien de concret dans la définition de la mission n'a été établi.
C'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'une force de réassurance, vous l'avez bien dit, c'est après un cessez-le-feu. Alors un traité de paix, à mon avis, c'est parfaitement hors de portée.
Non, mais
un cessez-le-feu. Et donc il faut d'abord un cessez-le-feu. Or, on voit bien que Vladimir Poutine n'en veut pas, et puis que cette force de réassurance, contrarie ses projets. Donc, c'est la première difficulté. Il ne veut pas de troupes de l'OTAN, entre guillemets. Ce seraient des troupes qui n'appartiennent pas à l'OTAN. C'est des troupes d'États membres, mais...
Mais pas de l'OTAN elle-même.
Mais pas de l'OTAN, mais qui viennent quand même de pays, pour la majorité, qui sont de l'OTAN. Et ça, il n'en veut pas. Et puis ensuite, si vous voulez un cessez-le-feu, il faut se mettre d'accord sur la ligne de cessez-le-feu. Et là, il n'est pas d'accord non plus, puisqu'il veut absorber tous les oblasts qu'il a annexés de facto à la constitution de la Russie.
Face à vous, mon général, pire qu'un réformé, un objecteur de conscience. Un de ces traîtres à la patrie, de ces hippies fumeurs de chanvre, qui lorsqu'ils ont été appelés sous les drapeaux, ont préféré dire non, pas envie, en écoutant Kumbaya. Si demain nous sommes en guerre, je vous l'annonce, vous avez face à vous le premier des déserteurs, le déserteur alpha. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Pour une fois, vous ne me contredisez pas, visiblement.
J'étais objecteur de conscience,
tout à fait.
Et il chantait Kumbaya.
Oui, c'est un statut légal, on avait
pas d'objecteur de conscience. C'est légal, mais ce n'est pas très courageux.
C'est un général.
Je plaisante évidemment. Cet après-midi, Cyril, vous nous racontez l'origine, le déclencheur finalement de ce qu'on vit actuellement, la violation par Poutine des fameux accords de Minsk. Justement, les accords de Minsk, d'où ça sort ?
Imaginez un document fantôme, un bout de papier que Poutine a déchiré, en tout cas de manière métaphorique, juste avant d'envahir l'Ukraine il y a 4 ans. Pour le président russe, ce document n'existait tout simplement plus. Pourtant, ce texte était censé apporter la paix. Je dis ce texte, mais en fait, je devrais dire ces textes. Il y a eu plusieurs saisons de Minsk. Minsk 1, un accord signé le 5 septembre 2014 entre les représentants russes, ukrainiens et ceux des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Un accord qui prévoit la fin des affrontements dans le Donbass entre l'armée ukrainienne et les milices séparatistes pro-russes. Il convient notamment d'un cessez-le-feu immédiat, du rétablissement du contrôle ukrainien à la frontière russe russo-ukrainienne ou encore de la reconnaissance d'un statut spécial pour certaines régions de l'Ukraine orientale. Mais ça ne tiendra pas vraiment.
Et c'est donc là qu'on en arrive à Minsk 2.
Et oui, car entre décembre 2014 et janvier 2015, les violations au cessez-le-feu se multiplient, donc rebelote, on renégocie. Et c'est comme ça que le 12 février 2015, sous l'égide de la France et de l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine signent les accords de Minsk 2. Mais là encore, ça ne tient pas vraiment. La Russie reproche à l'Ukraine de ne pas respecter ses engagements, notamment sur l'autonomie des deux républiques séparatistes. 7 ans plus tard, la Russie va au bout de sa logique et envahit l'Ukraine, faisant fi de ses accords, tout en imputant la responsabilité de tout ça à l'Ukraine. Et c'est le début d'une histoire dont on ne voit pas bien l'issue à ce stade.
Merci Cyril. La suite de l'histoire, général Richoux s'écrit en ce moment même. Les 35 pays alliés de l'Ukraine ont décidé la semaine dernière donc de créer une force de réassurance en cas, on l'a dit, de cessez-le-feu. Est-ce que si on reste dans les exemples historiques, on a l'exemple d'une force de réassurance qui a bien fonctionné?
Ah oui, une très 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 célèbre. C'est la force de réassurance américaine après la guerre de Corée entre 50 et 53.
Ah oui, là. C'est...
Voilà. Et là, vous avez quand même un conflit qui ressemble furieusement au conflit ukrainien. 3 ans de guerre, une ligne de front. Alors, qui est pas à 2200 kilomètres. Celle-là, c'est la largeur de la péninsule coréenne. Mmh. Les Nord-Coréens au nord, les Sud-Coréens au sud, et une force de réassurance de 30 000 militaires américains, bien sûr, adossés à toute leur flotte du Pacifique, etc., là, aux nombreuses bases qui sont au Japon, un petit peu partout dans le Pacifique, et qui leur permet de se renforcer très très rapidement. Et cette force est là depuis 1953, et ça fonctionne très bien. Mais simplement, on n'a pas demandé l'avis à Kim Il-sung.
Oui, c'est ça.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. Sur France Inter.
La force de réassurance, ça sonne comme un produit que tente de vous refourguer votre conseiller clientèle Cofidis, mais non, c'est ce que les alliés de l'Ukraine veulent mettre en place pour maintenir la paix dans le pays après un éventuel accord de cessez-le-feu. On est avec le général Nicolas Richoux cet après-midi. Général, les alliés de l'Ukraine étaient réunis la semaine dernière à Paris. On l'appelle la coalition des volontaires. C'est quoi cette coalition?
C'est une coalition qui rassemble, semble-t-il, à peu près 35 nations, donc ça va beaucoup plus loin que l'Union européenne. Sachant que l'Union européenne, vous avez déjà des pays qui participeront jamais, comme la Hongrie de M. Orban, la Slovaquie de M. Fixo. Voyez, donc ça veut dire qu'il y a des extérieurs, dont le Royaume-Uni. J'ai pas la liste complète des participants,
mais
peut-être aussi des alliés de l'OTAN, comme le Canada, etc. Donc en fait, il s'agit simplement de montrer que les Européens existent dans le débat politique actuel, dans la mesure où les négociations pour un cessez-le-feu se déroulent essentiellement, grosso modo, entre les États-Unis et l'Ukraine d'un côté, les États-Unis et la Russie, et l'Europe est absente.
C'est donc juste pour aujourd'hui, pas se sentir hors-jeu, quoi, qu'on fait ça.
On est hors-jeu, mais simplement, si demain il y a un cessez-le-feu, on est la seule force crédible qui pourra être mise en place. Donc, on est à la fois utile, on est nombreux, on est capable de faire, simplement, dans le deal actuel, effectivement, on est absent, et effectivement, l'Europe a besoin d'exister, de montrer qu'elle existe, elle est capable également d'apporter sa solution à la crise actuelle.
Et concrètement, justement, comment cette force de réassurance va se mettre en place en Ukraine?
Eh bien, c'est toute la difficulté, puisque tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de mise en place de cette force en Ukraine.
Admettons, il y a un cessez-le-feu qui est signé dans la semaine, ce qui va...
Oui, alors s'il y a un cessez-le-feu, ça veut dire que la Russie a accepté la présence de cette force. C'est ça.
Ah oui, et là, les militaires vont être... envoyé, si j'ose dire.
Ah oui, à ce moment-là, si. Alors, imaginons, là, on est vraiment dans la politique fiction, parce que j'y crois pas une seconde, je le dis tout de suite. La Russie donne son accord, à ce moment-là, on va déployer, vraisemblablement, ses troupes, non pas sur la ligne de cessez-le-feu, c'est idiot, il y a 1200 kilomètres, on va saupoudrer, ça ne sert à rien. Mais il y aura certainement des bases un petit peu partout, avec des forces prépositionnées, capables d'intervenir s'il se passait quelque chose.
On parle de combien d'hommes?
Alors ça, c'est véritablement la grande question. Moi, j'estime que, vous voyez, les États-Unis ont 30 000 hommes en Corée du Sud, mais ils sont adossés quand même à des dizaines de milliers d'hommes dans le Pacifique également. Mmh. Il y a toute la forme de la flotte du Pacifique, les forces stationnées à Okinawa, à Guam, enfin, il y en a absolument partout. Mais là, je pense qu'il faudrait, si vous voulez vraiment une force de réassurance, c'est-à-dire une force de dissuasion, une force qui a des garanties de sécurité, il faut entre 30 et 50 000 hommes. Sinon, vous n'aboutissez à rien. Vous allez saupoudrer sur le terrain. Et donc, effectivement, il faudrait vraiment du monde pour dissuader Vladimir Poutine de remettre le couvert. Mais Vladimir Poutine n'a pas l'intention que cette force se déploie sur le terrain.
Oui, mais c'est ça, en fait. On parle d'un projet qui ressemble quand même à une gesticulation médiatique, parce que Poutine ne va jamais accepter ça.
Oui, alors il ne va jamais l'accepter. Ce n'est pas forcément qu'une gesticulation médiatique. Les Européens ont besoin de montrer leur solidarité et de montrer qu'ils existent politiquement, ce qui est une réalité, là. On reproche beaucoup de choses à l'Europe. Moi, je suis assez européen, mais je me désespère souvent que l'Europe est impuissante. Là, il y a un véritable effort qui est fait. Simplement, il n'y aura pas de force de réassurance sans accord de la Russie. Il faut bien en être conscient. C'est ça la véritable difficulté, et c'est ça qui fait que cette force est particulièrement hypothétique.
Mais vous pensez que ça lui fait peur à Vladimir Poutine quand il entend parler de ça, non ?
Non, ça ne lui fait pas peur parce qu'il n'autorisera pas le déploiement. Vladimir Poutine gagne du temps. Il gagne du temps avec Donald Trump depuis un an maintenant. Ce qu'il veut, c'est ses objectifs immédiats, c'est au moins d'aligner la ligne de front sur la possession des oblasts qu'il a annexés à la Constitution de Russie, non pas de jure, mais de facto. C'est-à-dire, c'est eux qui l'ont dit, ça n'est reconnu par absolument personne. Donc il lui manque un bout du Donetsk, il lui manque un bout de Zaporijja, il lui manque tout ça, et il ne s'arrêtera pas avant. Parce qu'il a plus d'un million de pertes aujourd'hui. Un million 200 000. Alors, morts, blessés, etc. Mais c'est absolument énorme. Il ne peut pas arriver devant son peuple sans avoir des résultats tangibles.
On a fait déjà un peu de politique fiction, on va faire de la politique science-fiction. On va aller plus loin encore, plus loin dans l'avenir. Pour que les gens qui nous écoutent aient une idée, parce que c'est vrai qu'on entend parler de l'Europe, on entend parler des États-Unis. C'est quoi la force militaire de l'Europe aujourd'hui? Si un conflit mondial devait arriver, personne ne le souhaite, on sait que les Américains sont les plus puissants, la Russie a l'air d'être assez inquiétante aussi, mais est-ce que l'Europe a une armée, si toutes les... Il n'y a pas d'armée européenne, mais il n'y a pas de défense européenne, mais est-ce que si toutes les armées des pays d'Europe, de l'Union européenne en tout cas, s'unissent, est-ce que ça donne quelque chose de crédible, de dissuasif?
Oui, ça donne quelque chose de crédible. Le vrai problème, c'est qu'on n'est pas unis. Nous sommes 27. Et même les Américains aiment bien nous voir à 27, parce qu'ils peuvent négocier bilatéralement et puis vendre à la découpe chaque pays européen, bien entendu. C'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan militaire. Ils nous demandent toujours de nous renforcer sur le plan militaire, parce qu'ils exercent la plus grande charge du budget de l'OTAN, etc. Mais dans la pratique, moi je n'ai vu dans ma carrière que des tentatives de nous diviser, et il y a absolument une non-acceptation de la puissance militaire de l'UE, et du pilier européen de l'OTAN. Voilà, parce qu'il faut rappeler que l'Europe, d'abord, c'est 24 ou 25 pays qui sont dans l'OTAN. Donc c'est nous qui fournissons le principal pays de l'OTAN.
À la guerre, il y a ceux qui sont au front et puis il y a ceux qui sont planqués. Dans Zoom Zoom Zen, c'est pareil. Avec Manon et Cyril, on est planqués. On bouffe peinard de gros cookies dans notre open space chauffé à 20 degrés pendant que le malheureux Quentin part la fleur au fusil à l'assaut des passants pour les faire réagir à notre thème du jour. Alors Quentin,
c'est pas
on va pas chialer.
On sait que vous n'allez pas chialer. Il y a pas de problème.
On a failli vous amputer trois doigts la semaine dernière
par
hypothermie, c'était terrible. Quentin, dites-nous, les gens que vous avez rencontrés, ils en pensent quoi de cette force de réassurance?
Ma première rencontre dans la rue, c'est il a 23 ans, il est en master d'ingé. Est-ce qu'il a vu passer dans l'actu cette notion?
Non. Force de réassurance, du coup je le dis peut-être, mais non, j'ai pas vu.
Ce serait quoi?
Réassurance.
On peut faire un jeu? Tu peux sortir ton portable?
Ouais.
Taper force de réassurance?
Ouais.
Et on voit ce que... Qu'est-ce que c'est que ce portable?
C'était sûr. C'est mon portable, il est tout petit, hein, il est bien.
Va sur Actualité, là-haut.
Ah bah c'est Macron. Une force de réassurance. Emmanuel Macron évoque un potentiel déploiement en Ukraine de plusieurs milliers d'hommes en cas de cessez-le-feu.
Pendant qu'il découvre, on échange sur cette proposition de 27 pays pilotée de loin par les Américains, et il comprend que ça peut devenir sur place une force de dissuasion.
C'était plutôt ça du coup le mot, dissuasion. Ça marche mieux dissuasion que réassurance, personne connaît réassurance. C'est Macron, il aime bien dire des mots compliqués, mais...
Non, mais c'est pas lui, ça s'appelle comme ça, qu'est-ce que tu veux dire?
Non mais je sais pas, c'est Macron, parfois il dit des trucs,
Non mais là il lit pour rien.
Ok, force de réassurance. On pourrait être aidé par les États-Unis, mais enfin c'est quoi les États-Unis en ce moment? Avant-hier, il y a une femme qui s'est fait tuer dans la rue par les agents de l'ICE. Ce qui s'est passé au Venezuela, qu'on dise que Maduro est un dictateur ou pas, il y a un énorme problème de respect du droit international. Enfin, je sais pas. Je suis pour aider l'Ukraine, hein, mais si ça pose pas d'autres problèmes, je suis pour qu'on fasse en sorte que Poutine reste dans ses frontières.
Ma deuxième rencontre, c'est Christophe. Il a la soixantaine, casquette beige, grosse écharpe et veste de jogging grise.
Force de réassurance. Ah, d'accord, okay. Je comprends mieux. Moi, je sais pas si c'est une très bonne chose. Je sais pas s'il veut faire encore un coup d'éclat juste avant son départ. Moi, je trouve ça un peu ridicule.
Ça veut dire qu'on lâche l'Ukraine, là?
Ah ben, je pense qu'on les a beaucoup aidés déjà. Hein. Ouais. Je ne dis pas qu'on doit les lâcher, mais déjà financièrement, on les a pas mal aidés. Hein.
Je voyais ça sur le balcon là-haut là.
Ouais. Quoi?
On peut vous voyez ou pas?
Oui, oui, non, absolument, mais il y a toujours des drapeaux.
Ouais.
Ouais, ouais. Effectivement, peut-être continuer à les aider, mais bon, on a déjà quand même beaucoup contribué. On devrait un petit peu s'occuper de nous, sans être un peu, mais...
Oui, voilà. sans être un peu, voilà, mais nous d'abord quand même.
Ma prochaine rencontre, c'est Vivi, que je rencontre en sortant du café.
Force de réassurance. De toute façon, il faudrait déjà que l'URSS, elle a du mal déjà à...
Vous dites encore l'URSS, vous?
Pardon ?
Vous dites encore l'URSS.
Oui, c'est vrai que tu es encore à la...
Alors, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça me fait rire que certaines personnes puissent encore parler d'URSS. Et d'ailleurs, simple lapsus ou lapsus révélateur. Ma dernière rencontre se tient derrière le comptoir d'une boutique parisienne. Derrière elle, elle a un drapeau de l'Ukraine. Je fais connaissance, bonjour.
Bonjour, donc je m'appelle Ola, j'ai 39 ans, je suis française et ukrainienne. Dans la vie, je suis fleuriste.
Elle lève les yeux au ciel en comprenant le thème de l'émission.
Alors moi, je pense que c'est une question vraiment qui n'est pas du tout à jour, étant ukrainienne, suivant les infos de très près de l'intérieur de l'Ukraine. Quel cessez-le-feu et quel... on n'en est pas du tout là, quoi. Tous les jours, il y a des villes qui sont bombardées, il y a les gens qui perdent la vie. Pourquoi on n'en parle plus?
Alors, je dirais qu'on en parle toujours, à commencer par notre antenne, mais c'est vrai que l'Ukraine ne prend plus la même place dans l'actualité qu'il y a 4 ans, il faut le reconnaître. Je lui demande d'où elle vient.
Moi, je viens d'une ville qui est à la frontière russe, à 60 km de la frontière. C'est une petite ville qui s'appelle Soumy. C'est la ville par laquelle ils sont entrés. Le premier jour, ça a été passé par là. Et ça va très mal parce qu'on est très proche de la frontière. Non, mes proches vont très mal là-bas, très mal. C'est les gens qui vrillent psychologiquement, les enfants qui suivent très mal leurs études, la peur constante, très mal. C'est une nation qui va être très abîmée, même si, imaginons qu'on signe. La paix, cessez-le-feu, etc. C'est une génération qui va être très abîmée psychologiquement. Ça va être très dur.
Je reviens quand même sur ce que proposent ces 27 pays. Comment serait reçue cette aide et cette présence militaire en cas d'accord de cessez-le-feu?
On va accueillir n'importe quelle aide depuis le temps que c'est promis. Ça va faire 4 ans. Et moi, je suis en France depuis que j'ai 18 ans. Donc, j'ai eu le temps de faire mes études ici, ouvrir un magasin de fleurs. Mais j'ai toujours été très patriote. Je surveillais toujours de près ce qui se passait là-bas. Quand on pouvait envoyer de l'aide humanitaire au début de la guerre, je l'ai fait. Quand il fallait traduire à la préfecture, à l'EFI, à la sécurité sociale ici pour accueillir les Ukrainiens, je l'ai fait. Et j'en ai beaucoup pris. Donc oui, donc ce petit drapeau dans mon magasin, c'est un signe de soutien que j'ai jamais arrêté de porter.
Merci Ola.
Mais je vous en prie.
Bonne journée. Et je repense à ces drapeaux ukrainiens qui flottent encore au balcon, un peu passés par le temps, comme figés dans l'élan de février 2022. Le sien, à elle, est impeccable. Les couleurs sont encore vives à l'image de son émotion et de son engagement.
Général Richoux, est-ce qu'on va trop vite en besogne en parlant aux Ukrainiens d'un après le cessez-le-feu, alors que c'est vrai, sur place, les bombardements sont loin de s'arrêter, même simplement de diminuer?
Eh bien écoutez, le rôle des militaires, c'est de planifier.
De prévoir.
On planifie. Mmh. Vous ne pouvez pas projeter une force de plusieurs milliers d'hommes, peut-être fera-t-elle pas 50 000 hommes, mais si vous avez déjà 20, 25 000 hommes, c'est-à-dire grosso modo une grosse division, vous avez, c'est des mois de planification, après il faut les envoyer, il faut savoir comment elle sera robuste, c'est-à-dire quel matériel vont être projetés, il faut la logistique associée, il faut les munitions, il faut négocier, parce que là on voit bien qu'on est peut-être 35 pays, plus la Russie, etc., il faudra négocier le mandat. Parce que c'est ça qui est central, c'est le mandat. Quel mandat? C'est-à-dire qu'elle pourra faire sur place. Sera-t-elle une force simplement d'observation, une force qui pourra également, par exemple, entraîner l'armée ukrainienne, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment. L'idée, c'est aussi de permettre à l'armée ukrainienne de garder un très haut standard sur le plan militaire. Donc, quelle sera sa mission? C'est véritablement ça qui est important.
Je repense à ce que nous dit Christophe. On les a déjà assez aidés, même financièrement, il serait temps de penser à nous. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Eh bien, que c'est une vision de court terme, ça, véritablement. Moi, j'entends bien, mais nous expliquer qu'un conflit qui est à moins de 2000 km de chez nous ne nous concerne absolument pas, eh bien, c'est ce que disait Trotsky. Il dit, si vous vous souvenez pas de la guerre, un jour, la guerre se souviendra de vous. Donc, effectivement, on ne choisit pas ses adversaires. Les gens pensent qu'on peut choisir ses adversaires. Moi, j'entends souvent, au lieu de vous occuper de l'Ukraine, occupez-vous de l'immigration. Ouais. Mais on ne choisit pas ses adversaires. Il peut y avoir les adversaires qui sont des djihadistes, des gens de Daesh, et puis de l'autre côté, la Russie peut être agressive, et puis maintenant on voit même que les États-Unis deviennent agressifs à un autre endroit. Donc l'adversaire, c'est un fait. Donc on se prépare, aux formes de menaces qui sont en face de nous.
Mais est-ce que, autant parler de cette force de réassurance dernièrement, c'est pas aussi donner un sentiment de faux espoir aux Ukrainiens ?
Non, vraisemblablement pas, parce que de toute manière, d'abord, ils savent qu'on s'adosse à eux. Une aide européenne qui est derrière ça. Je rappelle qu'avec cette force de réassurance, on vient de voter 90 milliards de subventions pour l'Ukraine, de manière à pouvoir continuer sa guerre, qui a été rajoutée à 45 milliards avec, je crois, le Canada, l'Australie, etc. Ça fait pratiquement 135 milliards de dollars. Donc, ils savent qu'on les aide. Ça permet de financer la guerre sur plusieurs années. Et donc, il est très important de savoir qu'ils ont des alliés.
Et pour rassurer Christophe, dans le micro-trottoir, c'est pas que de l'altruisme. On les aide parce que ça nous protège. On peut
absolument
imaginer que Poutine voudra aller
toujours
plus
loin.
C'est
un problème de sécurité, même nationale, européenne et nationale. Parce que les pseudo patriotes nous expliquent que la frontière, elle passe grosso modo au Rhin. Quoi, hein ? Ben non, la frontière passe pas au Rhin. Aujourd'hui, on est un ensemble géopolitique, géographique. Très important, et la frontière, elle est à la frontière de la Pologne, de la Roumanie, et c'est là-bas que se passent les événements qui peuvent nous tomber sur la figure demain matin.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Je dois l'avouer, avant de prendre connaissance de la documentation, que je lis toujours consciencieusement en amont de chaque émission, je me suis demandé pendant une fraction de seconde ce qu'une émission sur les forces commerciales des mutuelles de santé pouvait raconter de notre époque.
C'est la guerre, Jérôme. C'est eux ou c'est toi ? C'est manger ou être mangé ? Eat or to be eat. That's the question, right ?
Celui qui sera capable de me citer le nom du chef-d'œuvre qu'on vient d'entendre gagnera 7 points.
C'est le pont de la rivière Kouaï. J'entendais derrière
la musique était en
c'est
plus.
C'est Poulvard, mais on sait.
Mais vous n'aurez pas 7 points supplémentaires. C'est évidemment Les Portes de la Gloire, une ode au VRP en slip kangourou avec Benoît Poulvard. Mais bref, sentant que je faisais fausse route, je demandais à Cyril c'est quoi cette force de réassurance dont on va parler. Cyril me répondait avec cette même grimace qu'il a quand il croise un cycliste. Oh, un nouveau truc pour éviter la guerre, encore une trouvaille des wokistes. Ouf, pas la peine d'écrire un quiz sur les forces vives de cet LM. On parle guerre, mais attention, gai savoir oblige en riant. Voici donc un quiz consacré aux guerres qui n'ont pas eu besoin de forces de réassurance pour ne faire aucun mort. Jouons au Zoom Zoom Test. Direction tout d'abord les îles de San Juan en 1859. Manon Quentin, je ne vous fais pas l'affront de vous demander où se situe cet archipel. Eh bien si, les îles de San Juan, c'est dans le Pacifique Nord, dans l'État de Washington ou dans la baie de Vancouver.
Ah non, mais ça c'est... Oui.
Pacifique.
Vancouver, allez.
C'était évidemment les trois. Oh. Vous êtes nuls en géo. Nous sommes donc en 1859, bien avant la création de l'ONU et même de la Société des Nations. Le monde est une jungle où prévaut la loi du plus fort. Rien à voir avec aujourd'hui où le Groenland peut dormir sur ses deux oreilles. Non, en 1859, il n'est pas rare qu'une grande puissance décide qu'une île lui appartient. C'est le cas de l'archipel San Juan que se disputent l'Empire britannique et les États-Unis. Le conflit va durer 3 ans et se terminera par un compromis sans effusion de sang et restera connu dans l'histoire comme le conflit de canards, très bon avec des pommes sautées et des cèpes, émoji clin d'œil Giggy Pop.
Ce jeune homme, c'est pas possible, c'est Gérald Darnaud ça ?
C'est Giggy Pop qui visiblement a contribué. La bataille de l'Otari ou la guerre du cochon ?
B.
C.
La célèbre bataille de l'Otari, maintenant vous pouvez peut-être développer pour nous raconter ce qui s'est passé et en quoi cette Otari a été déterminante dans le conflit.
Non mais.
C'était la réponse, c'est bravo Quentin, la guerre du cochon. Ainsi surnommée parce que, tout compte fait, la seule victime du conflit, également à l'origine du conflit, fut le cochon d'un fermier américain buté par son voisin, un colon britannique. Décidément, c'est roast beef, il ne respecte rien, même pas le jambon, dira Cyril. La guerre du cochon vous a ému, celle de la marmite va vous surprendre. Nous sommes sur les rives de l'Escaut, en 1784, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique flamande. À l'époque, la zone est convoitée par l'Empire germanique et les Provinces unies, soit les Pays-Bas actuels. Ce pays qui donnera au monde l'inoubliable interprète de Vanina, également Sugar Daddy de Quentin Lhuy.
Vanina, si tu m'oublies.
Oui, on t'a pas oublié. Mais pour l'heure, je le rappelle aux mauvaises langues,
Dave
n'est pas encore né, puisque nous sommes en 1784.
Il n'est pas encore mort.
Sur les rives... on l'embrasse. Sur les rives de l'Escaut, l'occasion de saluer Julie. Un fleuve.
Oh là là. Merci. Alors, vraiment,
un
non.
Fleuve, un fleuve qui va être au cœur d'une guerre sans mort, puisque la seule victime à déplorer sera une marmite, qui était l'équivalent hollandais du drakkar, un navire de guerre léger et rapide, Job Marmite, le commandant de la garnison batave, ou une marmite de soupe germanique qui s'est pris un obus hollandais.
Ah, c'est...
La marmite, pour vous, c'est un drakkar, Quentin.
Mais pourquoi pas ?
Oui, un drakkar. Il était fuselé. Comment vous voyez la marmite ?
Oui, c'est ça. Bah, ça
c'est comme ça. Mais c'est une bonne réponse de Manon Mariani, évidemment. Tout ça pour ça. Octobre 1784, un navire fridolin cherche à bloquer le blocus hollandais. Ces derniers tirent un coup de semonce depuis une forteresse et un boulet atterrit sur le pont en plein dans la marmite de soupe, l'obligeant à déguerpir. Fin du conflit, on ne déconne pas avec la soupe.
Oui, la souplette, la bonne souplette.
Mais remontons dans la DeLorean du Gai Savoir, direction le 20e siècle. Je vous entraîne au cœur d'une guerre féroce, sans pitié, la préférée d'Elisabeth Lévy et de Renaud, la guerre du whisky. Nous ne sommes pas, hélas, au Connemara, mais plus au nord encore, l'île Hans, un caillou pelé d'un kilomètre carré paumé dans l'Arctique. Mais voilà, un lieu éminemment stratégique dont Danois et Canadiens se disputent la souveraineté dans ce qu'on appelle donc la guerre du whisky. Mais si on n'est ni en Irlande ni en Écosse, pourquoi la guerre du whisky ?
À cause de la tourbe.
Ah oui, c'est la tourbe.
Oh, attendez, pas de réponse hâtive, mon général. Attention, attention. Parce que des soldats...
L'invité surprise, quoi, j'adore.
Ah, l'invité surprise qui me flingue le couille. Parce que des soldats canadiens ont symboliquement pris possession de l'île en plantant un drapeau à feuilles d'érable et en laissant traîner des bouteilles de whisky canadien, ce qui amènerait une sous-question vertigineuse qui aurait suffisamment de goût pour boire du whisky canadien ?
Des cons !
Des cons certainement, Cyril, mais prenons le temps de la réflexion. Ou,
on passe vraiment de bigard, là ?
Parce que l'île, parce que l'île était un des principaux points de passage du whisky de contrebande durant la Prohibition. Ou parce que le conflit a éclaté suite au naufrage au large de l'île de Hans d'un navire transportant 10 000 caisses de whisky. La légende dit qu'aujourd'hui encore, les dauphins sont bourrés dans un rayon de 5 000 nautiques.
B. Oh, flipper.
A et C, du coup, peut-être.
A et C, vous voulez...
Il y en a plusieurs.
Moi, je dis
alors,
B.
En général, on fait moins le malin, maintenant.
Moi, je dis B.
Vous dites B.
Moi aussi, j'ai dit B.
C'est une bonne réponse, c'est qui derrière la tourbe.
Alors, essayez de donner une réponse différente, peut-être que quelqu'un aurait une bonne réponse.
Vous avez dit B, moi, je dis C.
Vous dites C. Bah, personne n'a de bonne réponse.
C'est
la réponse A. Non, du whisky canadien. Cyril n'écoute même plus ce quiz, il est déjà parti se passer les nerfs dans le couloir. Il faudra en tout cas attendre 2022 pour résoudre enfin ce conflit hautement stratégique, tout simplement en coupant en deux l'îlot d'Anse, permettant quoi ? De déterminer à qui appartient le pétrole ? De savoir qui a le droit de pêcher le poisson ? Ou de tracer la seule frontière terrestre entre l'Europe et le Canada ? Essayez de le visualiser.
C'est.
Vous jouez avec le général,
Je ne dément pas cette réponse. Cette réponse, mais je dirais qu'il y a autre chose.
A, B, C,
B, C.
A, B, C.
Non, mais arrêtez. Les trois.
T'as dit A, B, C.
Vous avez mal entendu
dire A, B, C.
Vous avez dit A, B, C.
Vous dites que vous...
Que j'entends mal ?
Mais pas du tout.
Ah ouais.
Non, alors, Quentin, c'est une mauvaise réponse. Apparemment, tout le monde aurait dit, bien entendu, que vous avez dit juste ASC.
Moi, j'ai dit ABC, mais...
Avouez néanmoins que le coup de la frontière terrestre entre l'Europe et le Canada, vous ne l'aviez pas vu venir. Qui sera la star de votre prochain dîner en ville ? Vous, bien sûr. Un conflit qui n'aurait engendré aucune violence, à l'opposé de la bataille de la calzone au Nutella, opposant Pierre Courade à l'Italie, et qui a déjà fait plusieurs victimes, dont notamment l'intégrité journalistique. Victoire de Quentin, lui. Je ne sais pas trop comment, par quel calcul.
Parce que j'ai dit ABC, j'ai dit les trois, mon général.
Mais ils l'ont pas compté.
Si c'est validé par le général. Alors c'est une victoire de Quentin. Les Ukrainiens, les amis, ont-ils vraiment l'assurance que nous allons leur envoyer des forces de réassurance ? On en parle cet après-midi avec le général Nicolas Richoux. Général, la force de réassurance, on l'aura compris, est avant tout là pour assurer à l'Ukraine sa sécurité. La Russie a pourtant dit jeudi dernier qu'elle considérera toute présence militaire occidentale comme une cible légitime. On en parlait en début d'émission. Ça veut dire concrètement que les soldats français pourraient affronter l'armée russe en Ukraine ?
Non, ça veut dire qu'ils peuvent lui tirer dessus et donc c'est une fin de non-recevoir. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça n'est pas mûr et que cette force ne sera pas déployée, vraisemblablement.
Elle était déployée, cette force, un jour, suite à un éventuel cessez-le-feu, est-ce que là, on s'exposerait, nous, en France, là, je ne parle même pas des militaires sur le terrain en Ukraine, mais des représailles en France de la
Non,
part de la
parce qu'elle sera déployée uniquement s'il y a un accord des Russes. Donc, il faut qu'il y ait un accord sur le rôle de cette force. Peut-être qu'ils seraient d'accord si c'était des Pakistanais, des Bangladeshis et pas des forces de l'OTAN, par exemple, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, le fait que ce soit des pays membres de l'OTAN qui se déplacent vers l'Est,
ça
rajoute au complexe obsidional qu'on connaît bien de la Russie, qui pense qu'on avance nos pions depuis 1991 vers l'Est.
Qu'est-ce que vous pensez, Général Richoux, des propos de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui disait vendredi qu'il était temps de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine ?
De toute manière, il faut toujours se parler, parce que vous n'aurez pas de cessez-le-feu si vous ne parlez pas à l'adversaire. Donc ça me paraît de la bonne politique.
Pardon, mais ça fait combien de temps que Macron a parlé avec... Poutine.
Mais il a dit qu'il pouvait reparler prochainement. Hein.
Oui. Donc,
oui, absolument.
Mais
Macron, c'est sans doute un de ceux qui a le plus parlé avec Poutine au début de la guerre. Mmh. Et il avait raison de le faire parce
mais
que peut-être que si on pouvait éviter la guerre, ça aurait été peut-être mieux à cette époque-là. Le problème, c'est effectivement Poutine n'avait pas de volonté de ça. Donc le fait de se parler, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, j'ai été en ambassade. Je peux vous dire que quand on se parle, même avec les Allemands qui sont nos alliés, on se dit pas forcément des choses agréables. Hein. Mmh. On se dit la vérité. Donc on peut dire droit dans les yeux. Voilà, si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. C'est ça, en fait, aussi, se parler. Et leur dire la vérité des prix. Attention à vous, parce qu'on rigole plus. Et voilà. Ce qu'il faut, c'est surtout pas médiatiser. Dans les négociations, quand on commence à jouer au bras, au gros bras, aller sur les antennes et dire, voilà ce qu'on va faire, regardez comme on est puissant. Ça marche pas. Si on humilie l'adversaire, ça ne fonctionne pas. Par contre, dans le huis clos d'une salle, on peut se dire des choses très, très désagréables. Et je pense qu'il est utile de se parler, même si on n'est pas d'accord.
Est-ce que vous partagez ce que déclarait Emmanuel Macron la semaine dernière, il dit que les États-Unis se détournent progressivement de certains alliés et s'affranchissent des règles internationales.
Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il menace maintenant de croquer le Groenland, si vous voulez. Donc, c'est absolument extraordinaire que le Danemark, qui a été un allié fidèle des États-Unis, à tel point que le Danemark ne faisait pas partie de l'Europe de la défense. Hein. Ce que j'appelle l'Europe de la défense, c'est la politique européenne sécurité-défense, de défense commune, etc. Parce qu'il était aligné, son seul point de référence, c'était l'OTAN. Le Danemark est intervenu dans les conflits aux côtés des Américains. Ils ont pas une grosse armée, mais ça, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, on menace cet allié fidèle de le croquer. Bon, alors, quand on croque, on n'est même plus un adversaire, on est un ennemi. C'est comme ça que ça s'appelle sur le plan militaire.
Général, la semaine dernière sur LCI, vous disiez qu'il fallait être prêt à se battre contre les Américains.
Ce que je voulais dire par là, c'est... Vous savez, le Groenland, c'est une force de réassurance aussi. Il faut envoyer des troupes et puis pour dissuader les Américains. Et s'il y a un coup de feu, eh bien, c'est eux qui le tireront. Ils auront la responsabilité de l'infamie façon Pearl Harbor pour les siècles des siècles d'avoir tiré sur leurs alliés et d'avoir voulu croquer un allié. Nous, on n'a pas envie de tirer sur les Américains, mais si on est chez nos alliés, on a le droit d'y être.
Donc il faut vite envoyer des forces.
Il faut envoyer des forces, sauf qu'ils soient aussi des forces dissuasives pour bien signifier qu'on ne prend pas le Groenland, qu'on ne s'attaque pas à l'intégrité territoriale, car si on s'attaque à l'intégrité territoriale, à quoi servent les armées? Enfin, c'est le fin du fin de tout. C'est absolument insupportable.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une force militaire aujourd'hui, la force de maintien de la paix des Nations Unies, qu'on appelle aussi les casques bleus. Les casques bleus, ce sont des soldats, policiers et civils déployés par l'Organisation des Nations Unies pour tenter de maintenir la paix dans les zones de conflit. Leur mission n'est pas de faire la guerre, mais d'éviter qu'elle ne reprenne. Ils apparaissent en 1948 dans un monde encore traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. L'ONU vient d'être créée et cherche un moyen concret d'empêcher les conflits de dégénérer. La première mission est envoyée au Moyen-Orient pour surveiller un cessez-le-feu entre Israël et ses voisins. Les soldats portent alors des casques peints en bleu clair, couleur de l'ONU, pour être identifiables et signaler leur neutralité. Cette force n'était pas armée, elle était juste là pour surveiller. Depuis, le principe n'a pas changé, les casques bleus ne peuvent intervenir que si trois conditions sont réunies. D'abord, le consentement des États concernés, ensuite l'impartialité et enfin, l'usage de la force est autorisé uniquement qu'en cas de légitime défense et pour protéger des civils. En 1988, les casques bleus reçoivent le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, ils sont environ 70 000 déployés dans le monde sur une dizaine de missions, notamment au Liban, en République démocratique du Congo, au Mali ou en Centrafrique. Ils viennent de pays différents, le Bangladesh, le Népal, l'Inde ou le Rwanda. Ils figurent parmi les plus gros contributeurs. La France, elle, participe surtout au financement et à l'encadrement politique. Mais le rôle des casques bleus est loin de faire l'unanimité. Leur action est régulièrement critiquée, notamment pour leur manque de moyens, la lenteur des décisions et surtout leur incapacité à empêcher certains massacres. L'exemple qui revient souvent est celui du Rwanda en 1994 où la population a été massacrée alors que les casques bleus étaient présents. Et puis des scandales d'abus sexuels ont aussi entaché leur image. Depuis le début des années 2000, l'Organisation des Nations Unies reconnaît des centaines de cas d'exploitation et d'abus sexuels sur des civils, notamment en République démocratique du Congo, en Haïti ou en Centrafrique. Des enquêtes ont documenté des violences sexuelles, y compris sur des mineurs, parfois en échange de nourriture ou d'argent, dans des contextes évidemment de misère extrême. Le problème, c'est que les casques bleus restent sous la juridiction de leur pays d'origine, ce qui empêche l'ONU de les juger directement. Résultat, de nombreux soldats accusés sont rapatriés sans condamnation et les victimes obtiennent rarement justice.
Merci beaucoup, ma chère Manon.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
L'armée, ça aurait pu être sa destinée. Puisque je vous rappelle qu'il a failli s'engager dans la marine. Oui, seulement voilà, est-ce parce que lors de sa première sortie en mer, il a vomi avant même que le navire fasse la bouée des 200 mètres? Ou bien parce qu'il a mis un commentaire déplorable sur la frégate sur TripAdvisor, cabine honteusement étriquée et très mal décorée? En tout cas, son aventure dans la marine a tourné court. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Mathieu, le pompon était prêt.
Le pompon était prêt, vous aviez acheté le pompon?
Non, il m'attendait.
Ça porte bonheur de le toucher, visiblement.
Oui, mais j'ai pas pu toucher le mien.
Vous pouvez le mettre sur votre nouvelle boucle d'oreille, ça.
On est pas très à l'heure.
Pardon, on est pas tout à l'heure, mais pardon, c'était néanmoins intéressant.
Oui, bien sûr, bien sûr. Pierre, on parlait de mon aventure marine.
Oui. Vous raconterez ça sur votre podcast. Allez.
Pour vous nous résumer, Pierre, tout ce qu'on s'est dit sur la force de réassurance en une minute chrono.
Oui, la force de réassurance aujourd'hui avec le général Nicolas Richoux qui n'a pas sa langue dans sa poche. Notre programmatrice Florence Gimala, qui l'a bien connue, semble-t-il, peut en témoigner. Le général Richoux nous a donc expliqué qu'une force de réassurance était un déploiement de soldats chargés de garantir la sécurité et constituer un pouvoir de dissuasion afin d'éloigner la perspective d'un nouveau conflit entre deux pays. Cette idée a été relancée la semaine dernière par Emmanuel Macron et la coalition des volontaires, les alliés de l'Ukraine. Une idée qui a d'ores et déjà du plomb dans l'aile. Hein. Vladimir Poutine estime que tout soldat occidental en Ukraine sera considéré comme une cible. En fait, d'après notre invité, une force de réassurance ne peut être déployée qu'en cas de cessez-le-feu, ce que ne veut pas le président russe. Il faudra ensuite que cette force soit lourdement armée, avec des missions claires, et qu'elle ait la possibilité d'être le juge de paix sur le terrain, autrement dit, qu'elle puisse tirer. Le meilleur exemple d'une telle opération est la force de réassurance américaine en Corée, entre 50 et 53. Aujourd'hui, l'Europe joue son rôle, hein, en proposant cette force en Ukraine, qu'elle soit mise en place ou pas, hein, l'initiative montre que notre continent est encore, a encore son mot à dire dans une affaire qui la concerne directement. Et enfin, je termine ce résumé avec cette force de non-assurance, celle de Quentin, qui a tenté d'imiter Jean d'Ormesson au début de l'émission.
Attendez, il faut que je m'y remette. Écoutez, Mathieu Noël, le Figaro, qui était d'ailleurs mon journal préféré.
Oh, ça va.
Ah, mais tu t'es bien rattrapé. Il est bien retombé sur ses pattes quand même.
Ouais, bof. Prenez un peu d'eau, Pierre.
Ouais.
Vous êtes dur.
Quentin.
Marion Mésadorian, vous avez fait des recherches sur ce qu'était la guerre.
Oui, c'est ça. Bon, alors, tout est relatif. Mon niveau de guerre s'arrête quand même très vite à Forrest Gump et la ligne verte. Je suis désolée, mais je me suis rendu compte, par contre, qu'en France, il y a la journée d'appel à la défense, mais il n'y a pas la journée d'appel à la paix. On nous apprend ce qu'il faut faire quand il y a la guerre, mais on ne nous apprend pas ce qu'il faut faire quand il y a la paix. Parce que quand il y a la paix, il n'y a pas rien à faire. Justement, il faut la conserver. Et comme l'armée française n'a pas le temps, je vous propose, mon général Richoux, de répondre... Tu rêvais de dire ça. Je vous propose de répondre aujourd'hui à la question « Que faire quand il y a la paix ?» La paix, c'est ce moment d'accalmie entre deux guerres. C'est quand votre mari était censé étendre le linge depuis 3 semaines, mais que vous le regardez encore avec un sourire non nourri de colère. De haine. Non, vous n'avez pas encore prévu de lui mettre une poupée vaudou sous son oreiller, non. Ça, vous savez que ça sera l'étape suivante, mais pour le moment, vous le trouvez encore beau. La paix, c'est cette soirée entre amis où vous comprenez que vous étiez la seule qui n'était pas invitée au fameux mariage de Julie, mais que vous répondez avec entrain « C'est pas grave, ce soir-là, en fait, j'avais badminton !» Alors que tout le monde sait que vous ne savez même pas épeler le mot « sport ». La paix, c'est quand votre belle-mère parle polonais à table pour dire que votre choucroute est infâme, mais que vous, n'ayant rien compris, vous lui répondez « Merci !» Cultiver la paix, c'est dur. Ça se loge dans des endroits insidieux du quotidien, comme quand votre enfant vous dit « Maman, tu fais quoi ?»« Je lis un livre, va te coucher les 23h, allez. »« Maman, pourquoi tu lis un livre ?»« Parce que j'ai besoin de me détendre. » Pourquoi tu as besoin de te détendre, maman? Parce que sinon, je suis tendue. Pourquoi, maman, tu es tendue, maman? Et là, juste avant de répondre, parce que tu me fais chier, Gaspard. Si tu me demandes encore une fois pourquoi, maman va t'arracher toutes tes dents une par une. Et tu seras vraiment dégueulasse pour la photo de classe. Tu veux être plus moche que Basile? Non, parce que Basile, il est dégueulasse, Basile. On n'a vraiment pas envie de lui ressembler. Alors ça, voilà, non. Hop, hop, hop. Police de la réassurance. Et là, on respire et on répond « Gaspard, maman n'est pas attendue. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle a la chance de t'avoir, toi. Allez, file, sacripant. » Là, on met de la réassurance. Là, on conserve la paix. Alors bon, malheureusement, l'enfant ne s'endort pas pour autant. Il faudra passer par des sédatifs. Mais le message Montessori est bien passé. Au boulot, pareil. Quand c'est la 25e fois que vous relancez votre N+1 Bernard, par mail, par vocal et autres pigeons voyageurs, que vous êtes à deux doigts de lui envoyer un nude pour qu'il réponde enfin au dossier si important. Hop, hop, hop. Force de réassurance. Juste avant de l'appeler en disant « Bernard, je t'encule, Bernard. Non seulement je ne vais pas te souhaiter bonne année, mais en plus de ça, je t'encule. Toi et tes mocassins gland que je n'ai jamais publié. Je suis vulgaire, pas plus que ta façon de toucher la stagiaire. Alors ça, non, 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 force de réassurance. On respire, on pense à tout le bien qu'a pu faire Bernard dans l'entreprise. Racheter des dosettes de café, même si c'était que pour lui. Nettoyer la cuvette après son passage. Créer une cagnotte litchi pour le départ de Denise que personne n'appréciait. Et s'il n'a jamais rien fait de bon, ce bon vieux Bernard, eh bien, on transpose son visage sur le corps de Christophe, parce qu'il a toujours été sympa, Christophe. Hein, Christophe, c'est le gars qui remet un rouleau de PQ quand il n'y en a plus. Et ça, on valide. Alors, vous l'aurez compris, la paix, c'est ce qu'on déteste chez l'autre, mais qu'on accepte avec amour. Oubliez le bouton rouge, mon général. Pas de déploiement terrestre, maritime ou aérien. Seulement l'amour. D'ailleurs, bon, j'en profite pour passer un message à mon compagnon. Chérie, écoute-moi bien. Si tu n'étends pas cette machine, avant que je rentre de la chronique, c'est toi que je fous dans le tambour. Et tu verras que l'essorage, bizarrement, il marche à merveille. Merci à l'épée et amour à tous.
Bien sûr. Merci beaucoup, Marion. Mes adorés, on vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom. Merci beaucoup, Général Richou, de nous avoir expliqué ce qu'était déjà une force de réassurance et les questions que ça pose. Je rappelle qu'on peut régulièrement retrouver vos analyses chez nos confrères d'LC. Merci d'avoir été avec nous.
Eh bien, merci de m'avoir invité.
Zoom Zoom Zen.